Combien c'est formidable d'avoir rencontré un tel Dieu. Le message que j'ai pour vous ce matin n'est pas un message d'évangélisation, il s'adresse aux croyants, nés de nouveau, nés de l'Esprit, qui ont vraiment le désir de servir le Seigneur. Depuis quelque temps, nous sommes dans l'évangélisation, dans un combat, le combat de Dieu. C'est agréable à Dieu, c'est sa volonté que nous allions répandre la bonne nouvelle du royaume autour de nous. Et le titre de ce message ce matin est celui-ci. Vous savez que je vous parle du pouvoir que nous avons, les chrétiens, mais il se peut que ce pouvoir soit annulé. Qu'est-ce qui annule ton pouvoir? Et on va prendre une première lecture dans Luc 10, verset 19. C'est notre lecture de base depuis que j'ai ce message sur mon cœur. Luc 10, nous lirons à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, et c'est ce que nous avons fait ce matin dans la louange et dans l'adoration. » Inclinons nos têtes, prions. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es là au milieu de nous ce matin et tu as un message, Seigneur, important à nous communiquer, à me communiquer, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, nous sommes appelés, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, à aller, Seigneur, prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades. Et Seigneur, c'est une joie pour nous de pouvoir le faire. Mais nous voulons vraiment être éclairés, Seigneur, par ta parole et ton esprit, pour savoir comment nous conduire. Seigneur, maintenant je m'abandonne entre tes mains, afin que ce soit toi qui parles, mon Seigneur. Je m'efface et tu prends le contrôle de cette réunion. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs, afin que vraiment nous puissions comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors, pour qu'on comprenne qu'il y a une continuité, quelques rappels des précédents messages sur le pouvoir des chrétiens. Christ nous a restitué ce pouvoir que Satan, par ses ruses, a volé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Christ nous a restitué ce pouvoir, cette autorité qui nous a été volée. Dans Colossiens 2,15, on avait lu « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle, publiquement, en triomphant d'elles par la croix. » C'est-à-dire que l'ennemi, il est désarmé. Un ennemi sans armes, eh bien, il a les chaînes aux pieds, il a les mains liées, il est désarmé et Christ, donc, là, publiquement livré un spectacle. Et de ce fait, notre position spirituelle n'est pas assise sur une chaise là, côte de Palique, mais elle est en Christ, dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes. Et cela, nous le voyons dans Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, pas là, ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, ça veut dire loin, au-dessus de tout. Loin. Vous voyez ? Mais ça, c'est un rappel. Et dans Éphésiens 1, 22, il est dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Le Père a tout mis sous les pieds de Christ. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Vous êtes le corps du Seigneur Jésus. C'est tout l'effet que ça vous fait. Amen. Nous sommes le corps du Seigneur Jésus. Verset 21, un peu plus haut, il est dit même dans le siècle présent. C'est maintenant. Même si encore il faut que nous soyons pour un peu de temps sur la terre. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et sous nos pieds, on devrait écrire au diable. Tu es sous mes pieds. Vous savez, quand ils viennent là, que vous êtes accablés là, on dirait que tout a bombardé toute la journée ou toute la semaine. Tu sais où tu es, diable ? Sous mes pieds. Je suis le corps de Christ. Je suis assis dans les lieux célestes très haut. N'ayez pas peur de le lui dire, vous allez voir, le soleil va revenir. Quand vous dites au diable où il est, où il se trouve, il faut le lui rappeler parce qu'il n'a pas trop de mémoire. Sous mes pieds tu es. Diable, sous mes pieds. Et cela, ce n'était qu'un rappel. Maintenant, revenons à notre texte de Luc 10, 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie parce que les démons même leur étaient soumis au nom de Jésus, disait-il. Et pourtant, eh bien un jour ça n'a pas marché. Un jour ils sont rentrés sur la pointe des pieds, discrètement et sûrement frustrés. Pourtant, ils en avaient chassé des démons, pourtant ils avaient guéri des malades, mais un jour ça n'a pas fonctionné. Et c'est ce qui peut nous arriver. C'est pour cela que il faut pas qu'on reste dans une frustration. Je vais résumer Marc 9, 2, fait le chapitre 9 de Marc. La situation se passe après la transfiguration de Jésus. Pierre, Jacques, Jean sont avec Jésus sur la montagne. Jésus est resplendissant de lumière. Et ils redescendent de la montagne. Ils arrivent près des disciples qui sont restés. Et là, il y a une foule. On pourrait même dire qu'il y a peut-être les journalistes qui sont là. Il y a une foule. Et cette foule, elle est surprise de voir arriver Jésus. Et alors elle accourt vers Jésus. Et maintenant nous lisons dans Matthieu 17, à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce qui s'est passé? Des jours auparavant, il revenait avec joie. Satan tombait du ciel comme l'éclair, disait Jésus. Ils étaient dans une joie intense parce que les malades guérissaient et les démons, ils s'enfuyaient. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça peut nous arriver. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer cet après-midi sur le terrain. On ne sait pas. Dieu seul le sait. Alors que s'est-il passé? Ils n'ont pas pu guérir cet enfant lunatique qui tombe souvent dans le feu et dans l'eau. La réponse de Jésus, elle est claire. Oh, mes petits, vous inquiétez pas. Vous allez voir, vous allez réussir les prochains jours. Je vous viens en aide. Oubliez tout ça. Vous allez voir, ça va remarcher. C'est cela que dit Jésus? Il ne leur fait pas des caresses, Jésus. Race, incrédule et perverse. C'est pas valorisant. Pourtant, c'est les mêmes. Répondit Jésus, jusqu'à quand devrais-je vous supporter, dit Jésus. Il était sur la terre avec eux dans un corps d'homme, mais jusqu'à quand? On dirait que Jésus, là, il peut pas connaître la lassitude, Jésus, non. Mais comme s'il avait un moment de lassitude. Et Jésus dit, amenez-le-moi ici. Jésus parla avec douceur pour que ce démon s'en aille. C'est ça? Non! Sévèrement, ô démon! Je sais que dans nos églises, on n'aime pas parler de démons, on préfère parler de la grandeur de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa fidélité. Moi aussi. Mais nous allons sur le terrain avec Jésus, sur l'ordre de Jésus, pour faire sa volonté. Vous pensez peut-être que les démons, c'était pour l'époque de Jésus. Autrefois, c'était comme ça, il y avait des démons sur la terre. Aujourd'hui, il n'y en a plus. T'es mon œil. Eh oui, je ne sais pas s'il y en a qui sont sortis de l'occultisme parmi nous. Ils savent ce que c'est, les démons, hein? Il parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Et Jésus encore, il leur dit la vérité, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, je ne sais pas s'il y a des jardiniers, mais moi j'en ai jamais vu, mais il paraît que c'est très petit, c'est comme un grain de moutarde. Vous avez le verset sous vos yeux là? Vous diriez, tiendront. On n'a pas l'habitude, hein? Vous diriez à cette montagne, à ce démon, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Rien. Vous diriez. C'est bien à nous de parler. On n'a pas l'habitude. Nous, on va demander au Père, au nom de Jésus son Fils, de le faire à notre place. C'est vous, c'est moi, c'est nous, vous diriez à cette montagne. Alors pourquoi nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a commandé de faire? Parce que nous sommes cette race incrédule. Ça fait pas plaisir, je le sais. Mais bon, c'est comme ça. Faut le reconnaître, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors Jésus donne un complément. J'aime les paroles de Jésus, elles sont formidables. Mais cette sorte de démon, Jésus y va clairement, ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors qu'est-ce que ça sous-entend, cette sorte de démon? On dirait qu'il y a plusieurs sortes de démons. On dirait qu'il y a comme une échelle de grandeur. Mais moi, je ne savais pas avant. Je l'ai découvert. Alors, essayons de comprendre pourquoi les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant, pourquoi leur pouvoir a été annulé. Pourtant, ça avait marché auparavant. Mais là, nous voyons qu'il y a une sorte, il y a plusieurs sortes de démons. Alors, examinons la situation. L'enfant, il est lunatique. Lunatique, c'est épileptique. Vous savez ce que c'est un épileptique, vous en avez certainement vu. Dans Marc 9, verset 17, parce que j'ai regardé dans les autres évangiles, possédé d'un esprit muet. Il le jette par terre. Il écume. Pardon. Il grince des dents. Il devient tout raide. L'esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. C'est vrai, oui, les muets poussent des cris. On en avait un à l'usine et c'était un souffre-douleur. On n'arrêtait pas de le faire inquiéter. Mais il était gentil. Et alors il criait, c'est vrai, il pousse des cris. Il pousse des cris. Il écume, il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Alors pourquoi leur pouvoir a-t-il été annulé ce jour-là? Déjà, c'est une terrible souffrance pour les parents. Imaginez, vous avez des enfants. Imaginez si vous aviez un enfant comme cela, tourmenté par un démon. Vous seriez accablé de douleur de voir votre enfant maltraité comme cela. Et on peut imaginer combien les disciples ils ont été impressionnés par ces choses que nous venons de lire. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, je devais avoir entre 15 et 25 ans, j'habitais chez mes parents à la Meillée, et nous avions un voisin, deux, trois maisons après nous, là, troisième maison, oui, qui était épileptique, hein. Mais épileptique grave, hein. Il ne pouvait pas conduire. Hein. Il travaillait dans le textile du côté de Biceus et il se déplaçait qu'à vélo. Dieu merci, je n'ai pas souvenir à l'époque qu'il ait eu une crise sur son vélo. Mais combien de fois, quand le fils aîné n'était pas là, il n'y avait que la mère et la fille, et quand il avait une crise chez lui, venait frapper à notre porte, hein, en pleurs, en courant, venez vite, mon mari a une crise d'épilepsie. Moi j'étais jeune, j'étais pas converti, mais je peux vous dire que c'est très impressionnant. Très impressionnant. On ne peut pas saisir la personne. C'est pas possible. C'était quelqu'un moins grand que moi, mais fluet comme moi, maigre. Mais dans ses crises d'épilepsie, il avait une puissance. Même un joueur de rugby en s'y jetant dessus, je sais pas s'il l'aurait maîtrisé, je sais pas. Il fallait surtout pas essayer de le maîtriser. Là où il était tombé, il se débattait. On retirait tout, la table, on mettait des coussins dans les angles partout. On essayait de le protéger comme on pouvait. Une fois, je me souviens, il était tombé dans le jardin, il a fallu l'éloigner de la murette, hein, éloigner la brouette, la bêche, tout ce qu'il pouvait y avoir. Et une autre fois dans les toilettes, là on n'a rien pu faire. Dans les toilettes, la porte était fermée, c'était impressionnant le bruit que ce pauvre homme pouvait faire dans ses toilettes. Ça vous prenait au ventre. Et quel spectacle, quand cette crise a stoppé, il y avait du sang partout dans les toilettes, tout était renversé. Le peu qu'il y avait, l'étagère qu'il y avait pour les rouleaux, enfin bref, tout était renversé, il saignait de partout. Et là, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était regarder s'il fallait l'amener aux urgences, ou s'il y avait des pansements, on pouvait le réparer, lui faire du bien. Impressionnant. Les disciples, ils ont vécu la même chose. La même chose. Et on peut comprendre que, devant un tel spectacle, leur foi a comme fondu. Leur pouvoir, il a été comme anéanti par le spectacle de ce démon qui voulait les impressionner. Il y a plusieurs sortes. On peut en conclure qu'il y a plusieurs sortes de démons. Leur foi, elle a fondu. Les doutes, la peur les a envahis. Leur pouvoir, à zéro, annulé. Ils étaient certainement sans voix. Alors Jésus leur dit, race incrédule et perverse, à cause de ce manque de maîtrise de leur part, perverse, qui veut dire enclin au mal, ne pas maîtriser sa peur, ses doutes, eh bien, ça va offenser le Seigneur. On offense Dieu quand on se laisse gagner par cette peur. Et Jésus leur dit, jusqu'à quand vous supporterai-je ? C'est un peu comme si, intimidé par ce spectacle démoniaque, eh bien on met le diable plus grand que Dieu. Ça offense le Seigneur. Vous êtes d'accord ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? C'est un peu comme si vous essayiez de gonfler la roue de votre voiture alors que il y a une grosse brèche, et bien vous avez roulé sur un tesson de bouteille, et bien vous pouvez la gonfler, l'air y ressort de l'autre côté. Jusqu'à quand vous supporterai-je, pourrait nous dire Jésus. Alors Jésus, dans son immense amour, leur donne la solution. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et nous avons fait un jeûne cette semaine. C'est pas pour rien qu'on jeûne et qu'on prie. Eh oui. Le jeûne et la prière va renforcer la foi du serviteur, du disciple. On est dans la présence de Dieu, là. Se fait du bien. On sent son onction qui nous envahit. On l'entend. Il nous parle, il nous communique des choses importantes pour le bien de l'Église. Le jeûne et la prière renforcera notre foi, donc son pouvoir, on renforce notre pouvoir sur les choses naturelles et sur les choses spirituelles, sur les maladies même d'origine spirituelle. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il fera tout pour vous éloigner des réunions de prière et de jeûne. À celles-là, il ne les aime pas, ces réunions. Hein ? Eh oui, parce que là, on devient des vaillants héros, des combattants du Seigneur, pleins de force, pleins de vie. Et Jésus le savait, parce que Jésus, il avait une vie de prière intense. Il se levait tôt le matin, des fois il passait des nuits entières aux pieds de son Père pour recevoir instruction, pour être vraiment rempli de l'onction. Il a même déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Jésus le savait comment ça marche. Je vais juste ouvrir une parenthèse parce que c'est pas mon sujet pour aujourd'hui, mais c'est une confrontation de royaumes. Le royaume des ténèbres face au royaume de la lumière. Une guerre. C'est une guerre. Pas pour rien qu'on chante des chants « Nous sommes l'armée du Seigneur ». C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre d'autel. Peut-être que je vous surprends là, une guerre des autels. Ceux qui ont touché à l'occultisme savent ce que sont les autels de l'ennemi, parce qu'il faut y mettre des sacrifices pour que les démons vous donnent un pouvoir. Mais ça, c'est l'affaire de Satan, on n'en parlera pas. Nous, l'autel de Christ, il doit parler plus fort que les autels de l'ennemi. Mais ça dépend des sacrifices qu'on met dessus. Ce matin, on a offert un sacrifice de louange à notre Seigneur, un sacrifice d'adoration. Et maintenant, l'autel de Christ parle plus fort. Le sang de Christ parle plus fort que le sang des sacrifices. Et je refermerai donc cette parenthèse. Si nous offrons des miettes, nous serons sans force. Mais si nous sommes de vrais adorateurs, eh bien nous aurons cette autorité, ce pouvoir, cette puissance. Et l'ennemi, il a peur quand il voit des vrais adorateurs. Il le sait, hein ? Eh oui. Notre pouvoir, il doit être exercé par la foi pour fonctionner sans se laisser intimider par le diable. Parce que si leur pouvoir a été annulé, là, eh bien c'est parce qu'ils ont été intimidés et leur foi, elle a complètement fondu. Gardons la vision que il est sous nos pieds, que nous sommes le corps du Seigneur. Dans Ésaïe 14, 16, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Ils disent, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Vous savez qui c'est là? C'est le diable. Est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Parce que quand nous serons avec Jésus, nous le verrons jeté dans l'étang de feu, dans l'étang ardent de feu et de soufre, et nous dirons, est-ce là celui qui nous a fait tant peur? Celui qui nous a impressionnés avec ses mensonges? Cet ennemi désarmé qui faisait du spectacle pour nous impressionner? Est-ce là? Quand nous prions pour divers besoins, notre foi, elle doit être la même que pour notre salut. J'ai des chrétiens parmi nous. Là-bas, il y en a. Vous avez la foi que quand Jésus va revenir, vous allez partir avec lui parce que vous avez accepté son sacrifice à la croix pour vous délivrer, pour vous sauver de vos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a fait toutes choses nouvelles. C'est une certitude, c'est l'encre sûre de votre âme. Vous y croyez dur comme fer. Vous feriez emprisonner pour ne pas renier votre foi. Et pourquoi nous n'avons pas la même assurance quand nous prions pour un malade, quand nous prions pour qu'un démon s'enfuit? La foi du salut, la même. Il nous faut la même. Parce que dans Hébreux 11:1, il nous est dit que la foi est une ferme assurance. Notre frère, il nous a prêché sur l'assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Sur l'espérance, il nous a prêché sur l'espérance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une guerre spirituelle, mais on a cette ferme assurance pour notre salut, et on doit avoir la même assurance quand nous parlons pour guérir un frère, une sœur malade, ou quelqu'un que nous rencontrons qui demande de la guérison. On doit avoir la même assurance que pour notre salut. Dans 2 Corinthiens 5:7, tout cela, pourquoi? Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Le Seigneur a dit, je le crois. Je le crois, je le déclare, je le confesse. Mais dans ce cas-là, les disciples, ils ont marché par la vue, impressionnés par le spectacle de ce démon. Et trop souvent, c'est la même chose pour nous. Nous marchons par la vue. Et nous croyons que si nous voyons. Eh oui, nous croyons que si nous voyons. Nous devons savoir qu'une parole au nom de Jésus, elle est suffisante. Elle est suffisante. Une parole. J'ai des progrès à faire. Je crois qu'on en a tous. Hein. Le diable, il a manipulé les disciples en faisant un spectacle. Et leur foi, elle a été réduite à néant, leur pouvoir annulé. C'est l'arme favorite du diable. Il est désarmé. Il n'a que le mensonge pour se défendre, pour attaquer. Il est désarmé. Christ l'a désarmé. Il n'a plus que le mensonge. Et là, il est rusé. Hein. Quand nous entrons dans ce combat spirituel, déclarons à l'ennemi qui nous sommes en Christ. Nous le chantons, je suis l'enfant de Dieu. Mais c'est vrai, alléluia. Mais pourquoi on ne le déclare que dans des chants? Et après, on ne l'entend plus dans nos prières. Pourquoi? Je ne sais pas. Le diable, il essaiera toujours de nous accuser. Mais notre mérite ne vient pas de savoir si nous avons passé une bonne semaine, si nous sommes en forme physiquement, ou si nous avons bien prié, ou si notre foi elle est à son maximum, ou si on a péché dans la journée, parce qu'hélas, ça peut arriver. À qui ça n'arrive pas? Moi, ça m'arrive. Eh oui, j'ai pas atteint la perfection, hein. Je cours vers le but. Mais je veux pas me laisser accuser par l'accusateur des frères. Lui, son rôle, c'est de vous dire, oh, tu n'es pas assez bien, mais tu te prends pour qui, toi? T'as vu, je t'ai mis une peau de banane, là, et puis tu as glissé dessus. Et maintenant, tu voudrais me chasser? Si tu attends d'être parfait, t'es tombé dans son piège, il a gagné, et ton pouvoir, il n'y en a plus, annulé. Alors voilà ce qu'on peut lui dire à ce menteur. Dans 2 Corinthiens 5:20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Je suis un ambassadeur de Christ. Vous êtes, nous sommes, un ambassadeur du roi de gloire, du Seigneur des seigneurs. Mes péchés, je me suis repenti, il les a portés à la croix. Et son sang efface toute condamnation. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu entends? On peut le lui dire. Hein? Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et s'il y avait des inconvertis parmi nous ce matin, eh bien notre message est celui-ci. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quelqu'un, pour plusieurs même, parce que ça, c'est l'amour de Dieu. Il est immuable, il ne change pas. Et celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu entends, diable ? Je suis la justice de Dieu. Quand il vient vous accabler, vous allez voir, il aime pas quand on lui rappelle la parole de Dieu. Il aime pas, il s'en va, il prend ses clics et ses claques, il s'en va. Je l'ai mis en pratique, faites-le, vous allez voir. Il tarde pas à s'en aller. La parole de Dieu fait taire le diable. Lui, par ses mensonges, il essaye d'annuler notre pouvoir, mais la parole de Dieu nous redonnera le pouvoir. Souvenons-nous que Jésus, dans le désert, il a combattu Satan avec la parole. La parole est une arme redoutable, une épée à double tranchant. Alors, pour que notre pouvoir soit renforcé et non annulé, veillons sur nos paroles. Parce que nos paroles sont puissantes, plus que ce que vous ne pouvez le croire. Oh, si vous compreniez combien vos paroles sont puissantes. Jésus, il ne disait pas n'importe quoi. Il ne devait pas parler comme moi, pour ne rien dire des fois, hélas, ou dire même des fois des choses qu'on ne devrait pas dire. Il ne disait pas n'importe quoi, notre Seigneur. Lui, quand il parlait, c'était clair, c'était précis, c'était pour redresser, c'était pour faire du bien, c'était pour sauver. Il ne mentait pas, il n'exagérait pas, il demeurait dans l'intégrité. Jésus, il commandait et la chose existait ou disparaissait. Mais il commandait une fois, une parole, ça suffisait. Jésus est notre modèle, Jésus est notre maître. Dans Marc 11, 23, on l'a déjà lu, mais c'est un rappel parce que vous savez, on est oublieux, hein, moi aussi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit ta parole, la mienne, la vôtre, hein, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point là, dans son cœur, mais crois, comme je vous l'ai dit, comme pour votre salut, hein, que ce qu'il dit arrive. Qu'est-ce qu'il dit après? Vous l'avez le verset? Dites-moi ce qu'il dit. Il le verra. Tiens donc. Alors, je l'ai découvert là. Il le verra s'accomplir. Nous, on est habitués au miracle que faisait Jésus. C'est Jésus, c'est le maître, c'est l'absolu, c'est le roi de gloire, c'est le Seigneur des seigneurs. Il commandait, et la main qui était sèche, eh bien, de nouveau, elle était pure. Mais là, il nous est dit, il le verra. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Que c'est pas toujours instantané ou soudain. Il le verra. Moi, j'en ai conclu cela. Hein. Donc, on peut en déduire qu'il est capital de ne pas douter dans nos cœurs. Et la connexion, elle est que si vous parlez, vous devez garder cette constance. J'ai commandé, je le verrai s'accomplir. Je le crois, je l'espère, je l'attends. Si tu as commandé la guérison pour quelqu'un, tu l'attends. Tu vas la voir s'accomplir. Même si ça n'a pas été spectaculaire, même si ça n'a pas été instantané, on doit garder cette constance. Jésus gardait une constance. Il était intègre. Je vais vous raconter un témoignage d'une missionnaire. Je ne vous dis pas le nom. C'est pas même la dame peut-être que vous croyez. C'est une missionnaire. Elle se trouve en Inde pour une campagne donc d'évangélisation. Ça fait déjà quelques jours qu'elle y est. Elle a prêché toute la semaine. Et puis un soir, à la réunion, donc à la fin de la réunion, elle fait un appel. Elle fait un appel. Des âmes s'avancent, s'approchent. Et là, on lui amène une personne qui a entendu son message et qui veut donner son cœur à Jésus. Mais cette personne, elle a adoré le Dieu du serpent. Eh oui, en Inde là-bas, c'est courant d'adorer le Dieu du serpent. Et quand notre missionnaire, elle arrive à cette personne et qu'elle lui dit « Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse pour vous, que je sois délivré ?» Parce que j'adore le Dieu du serpent. Elle le lui dit clairement. Et au moment où elle commence à prier, eh bien le serpent, il est là. Hein. Elle l'adore, hein. Il est là. Il est dans son corps. Et elle se met à émettre un sifflement comme un serpent. Elle tombe au sol et elle se met à ramper comme un serpent. Et notre missionnaire, commande comme elle faisait d'habitude, comme faisaient les disciples, comme elle avait l'habitude que ça fonctionne, et elle commande à cet esprit de serpent, à ce démon, à sortir de ce corps. Et plus elle commandait, et plus il faisait son spectacle, à tel point que, eh bien, il impressionnait tout le monde. Au bout de plusieurs réprimandes en élevant la voix pour chasser ce serpent, elle est désabusée, elle se tait, fait silence dans son cœur. Elle entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit « Mais combien de fois vas-tu chasser ce démon ? Combien de fois vas-tu le chasser ? Sais-tu qu'une seule parole au nom de Jésus est suffisante ? Ah, mon Seigneur, merci !» elle se dit dans son cœur. Elle regarde cette femme droit dans les yeux. Elle lui dit maintenant « Démon, c'est la dernière fois que je te dis de sortir. Tu sais que je sais. Sors de ce corps et n'y reviens plus au nom de Jésus. » Mais il n'était pas parti. Continuez à faire son spectacle. Le Saint-Esprit lui dit, continue de prier pour les autres. Et alors elle priait pour les autres. Mais pendant qu'elle priait pour les autres, elle était en lutte avec sa propre chair. La sphère des cinq sens qui veut tout le temps jeter un œil pour voir si quelque chose a changé, si quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit dans son cœur, ne te retourne pas. Ne regarde pas, marche par la foi. Ne doute pas. Et elle a continué de prier pour les autres malades. La réunion se termine. Le lendemain, c'est le culte. Et le lendemain, eh bien, notre brave sœur missionnaire, elle est sur l'estrade pendant le temps de louange. Et qu'est-ce qu'elle voit au premier rang ? Elle voit cette personne, au premier rang, complètement transformée. Un visage rayonnant, de paix, de joie, alors que la veille, elle était hideuse. Elle ressemblait à un serpent. Et là, elle était délivrée. Pleine de joie, elle louait, elle adorait celui qui venait de la délivrer. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le prince de la paix, le vainqueur de la croix. Il le verra s'accomplir et elle l'a vu s'accomplir. Mais si elle avait douté, si elle avait ouvert les yeux, eh bien elle aurait échoué. Son pouvoir aurait été annulé à cause de ses doutes, à cause de son incrédulité. Race perverse, race incrédule. On ne doit pas douter, même si on ne voit pas tout de suite les choses, mais on doit soutenir par notre parole ce que nous avons commandé. et nous le verrons s'accomplir. Et je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc il est capital de ne pas douter dans nos cœurs, parce que la connexion est que si vous parlez, la constance doit durer. Hein? Si par exemple le dimanche vous avez confessé la victoire pour vous-même, pour quelqu'un, et puis que dans la semaine, dans la conversation, oh ben vous savez, j'ai prié, oui, l'Église a prié pour moi, j'espère que Dieu dans sa bonté fera quelque chose pour moi, mais que sa grâce, eh bien, s'accomplisse. Vous savez, le « mais », il est à bannir de nos vocabulaires. Le « mais », c'est le contraire de la foi. C'est l'ennemi qui vient nous l'insuffler, là. Tu as vu, t'es pas guéri. Tu as vu l'Église à prier. Tu as rien senti. Tu as rien vu. C'est le roi du mensonge. Et on tombe dans ses filets. On doit garder cette constance. L'Église a prié. Je crois que dans les meurtrissures de mon Sauveur à la croix, tout est accompli. Je crois que c'est disponible à la croix. J'ai obtenu la guérison. Elle est à moi. Je la serre dans mon cœur. Et je le verrai s'accomplir. Voilà ce que nos paroles doivent, disons, prononcer dans la semaine. Pas uniquement le dimanche matin. Parce que sinon, notre pouvoir, il est annulé. Nos paroles exprimées doivent toujours refléter la foi et soutenir ce que nous avons commandé. Nous croyons, je crois, parce que Jésus l'a dit. Jésus le dit. Parce que si on a deux langages, c'est un peu comme un château de sable. Hein. Vous l'avez construit le dimanche, dans la louange et dans l'adoration, et puis dans la semaine, vous y mettez un coup de pied, et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez anéanti cette guérison que vous attendez, qui commençait à germer, c'est comme si vous aviez arraché la graine, c'est la même chose. Et ça, c'est une stratégie du diable qui est toujours de nous entraîner à manquer d'intégrité. Si je dis oui, je dois rester dans ce oui. Matthieu 5, 37 nous le dit, que votre oui, oui, soit oui, et que votre non soit non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin, c'est le roi du mensonge. Hein. Il essaiera toujours de nous déstabiliser. Mais ça va plus loin que ça encore. Par exemple, si on doit être intègre dans nos paroles. Un exemple très simple. Si vous dites à votre frère dans la semaine, il a sa voiture en panne, ne t'inquiète pas, dimanche je passerai pour te prendre, pour t'amener au culte. Le brave frère, il s'est préparé dimanche et il vous attend 9h20, 9h25, 9h45. Et puis vous lui avez dit que vous passeriez le prendre et puis vous avez vu le beau temps, vous êtes parti au Cap d'Agde. Et le brave frère, eh bien, 10h, eh bien, il dit je vais y aller à pied. Mais oui, vous n'avez pas cru à votre parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez dit une parole à la légère, sans intégrité, à un frère qui lui l'a cru, qui vous a fait confiance. Vous avez manqué d'intégrité, et parce que vous avez vu le soleil, le malin, et tu seras bien là-bas au cap, il fait beau aujourd'hui. Hein. Le frère, ben, écoute, il viendra à pied. Hein. Mais le malin, il le sait. Il les connaît, les gens qui n'ont pas d'intégrité dans leurs paroles. Et après, quand vous voulez lui commander de sortir de quelqu'un, mais vous croyez qu'il va vous écouter, et tu as laissé le frère au bord de la route, là-bas, tu te souviens, et moi maintenant tu veux me faire partir, il va vous rigoler au nez, hein, c'est sûr. L'intégrité dans nos paroles. Si on n'est pas intègre dans nos paroles, notre pouvoir est annulé. Jésus était intègre. Ce qu'il promettait, sa main l'accomplit. Il n'a jamais fait des promesses en l'air, Jésus. Jamais. Jamais. On va finir. Le point capital pour que notre pouvoir existe, c'est que l'on ne doit pas rester au premier niveau. Alors, qu'est-ce que j'appellerais le premier niveau ? C'est, ben voilà, je suis sauvé. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Jésus, viens bientôt, je t'attends. Je suis prêt pour ton retour. Moi, je suis entré dans le salut, Seigneur. Ah, je suis heureux. Je t'attends, Seigneur. Premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est que le Seigneur, il a une mission. Il veut que nous allions. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades. Ils chasseront les démons. Ils prêcheront la bonne nouvelle. Et dans Romains 10, verset 8, que dit-elle cette parole? La parole, elle est près de toi. Ah, merveilleuse parole, l'Esprit de mon Seigneur. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, la parole. Elle est semée, c'est Romains 10, verset 8. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et moi, je me réjouis parce que cet après-midi, la parole de la foi va être prêchée à Roquecourbe. Elle a été prêchée déjà dans d'autres villages. Et maintenant, elle va être prêchée à Roquecourbe. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. S'il y en a ce matin qui n'ont pas accepté Jésus encore dans leur cœur, acceptez-le maintenant. Demandez-lui pardon pour vos péchés maintenant. Et confessez que vous croyez en lui, que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et vous êtes déjà sauvés, sauvés par grâce. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors nous déclarons à notre adversaire qui nous sommes, des ambassadeurs pour Christ, hein? On déclare qui on est. On déclare que Christ nous envoie pour exercer le pouvoir et que notre pouvoir ne sera pas annulé par ses mensonges. Offrons-nous à notre Seigneur pour faire sa volonté. Dans Hébreux 10, verset 5, Jésus est notre modèle. Il est notre modèle. Il s'est donné pleinement. Il s'est donné sans limite. Il s'est donné sans mesure. Il a quitté le confort du ciel. Il s'est fait homme. Pour que les pécheurs que nous sommes, nous puissions entrer dans ce merveilleux salut. Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Quel merveilleux Seigneur Jésus nous avons. Il nous a laissé un modèle parfait. Alors, en conclusion, eh bien aujourd'hui, c'est nous, le corps du Seigneur, qui allons aller sur le terrain. Et nous pouvons faire comme Jésus et dire, voici, Maître, mon Père, je viens pour aller, pour faire ta volonté. Parce que tu m'as sauvé pour cela. Parce que tu vis en moi, parce que chaque jour j'entends ta voix, chaque jour je sais que tu m'aimes. Ah, merveilleux Sauveur, je ne peux pas garder ces choses pour moi et attendre patiemment ton retour. Il faut le partager. Me voici, je viens, comme Jésus, pour exercer le même pouvoir que toi. Guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, même la sorte la plus rebelle. La plus coriace, ils partiront au nom de Jésus. Et dans Hébreux 11, 32, et là nous terminons, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, comme vous cet après-midi, vainquirent des royaumes, parce que c'est une guerre de royaumes, on a la victoire au nom de Jésus. Exercèrent la justice. On va exercer la justice cet après-midi. Nous allons exercer la justice. Obtenir des promesses. On va obtenir des promesses parce qu'on est dans la volonté de notre Père. On va fermer la gueule des lions. C'est un beau programme, hein? Hein, l'équipe qui va sur le terrain, là? Là, fermer la gueule des lions. Vous allez éteindre la puissance du feu. Vous allez échapper au tranchant de l'épée. Bien sûr, il est désarmé, l'ennemi. Et même guérir de vos maladies. Mais vous vous rendez compte, quand on est dans la volonté de Dieu, quand on plaît à notre Père, quand on est obéissant, guérir de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, vous allez être vaillants, hein, et vous allez mettre en fuite des armées étrangères. Je peux vous dire que les ténèbres, déjà, ça rigole pas là. Hein. Elles tremblent. Elles tremblent. Ah, merveilleux Jésus, c'est le programme de la journée. C'est une confrontation de royaumes. Mais le royaume de la lumière, il est puissant. C'est notre Dieu qui est à la tête. C'est le roi de gloire. Celui qui tient la terre et les cieux entre ses mains. Merveilleux Seigneur. Voici donc les miracles décrits qui vont s'accomplir cet après-midi par ces vaillants héros, par ces Gédéons, par ces David, par ces Samson. Déclarez-le à l'ennemi, je suis un Jephté, je suis un Gédéon, je suis un Samson, pour le roi de gloire. J'avance au nom de l'Éternel des armées, je marche sur l'ennemi, je ferme la gueule des lions et je prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia Seigneur, combien nous te bénissons. On ne va pas laisser la tiédeur annuler notre pouvoir. Notre pouvoir, il est renforcé par la foi. Parce que nous sommes des adorateurs, en esprit, en vérité, parce qu'on s'est tenu dans le jeûne, on s'est tenu dans la prière cette semaine. On a renversé les autels de l'ennemi, on le déclare. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.